avec les charmants auteurs de Gemini Spanico sur le Salon du Livre de Paris 2014. Bonjour.
Salut.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous présenter la série, s'il vous plaît ?
Gemini Spanico, en fait, c'est un projet qui est né d'un questionnement il y a plusieurs années de ça, sur l'idée de la différence, tout simplement. En fait, c'est né de discussions qu'on a eues, Stéphane et moi. Enfin, il va peut-être pouvoir rebondir là-dessus pour détailler un petit peu.
C'est un conte fantastique, on va dire, et qui est plutôt destiné à tout public, mais c'est vrai ça nous tient à cœur que ça soit lu aussi par un public jeune, même s'il y a un côté très fantastique. Et les héros de cette série sont donc deux jumeaux très mystérieux. Ça, c'est vraiment le résumé, on va dire.
Quel est votre personnage préféré ? Parce qu'on dit souvent que les méchants sont plus intéressants que les gentils. Là, on a deux petits qui sont quand même assez gentils et qui ont des pouvoirs assez démesurés. Et puis, on a un méchant. Donc, qu'est-ce que vous préférez, vous ?
Bah, personnellement, je trouve que quand on aime dessiner, on aime tout dessiner, en fait. Que ce soit des méchants, des gentils, des décors, des personnages. Donc, non, j'en ai pas un de préféré. Enfin, je les aime tous.
Alors, je suis désolé de répondre la même chose que Stéphane, mais non, on s'y est attaché. Alors effectivement, peut-être que tel ou tel personnage peut avoir des espèces d'aspérités qui le rendent un petit peu plus attachant ou pas. Mais non, en l'occurrence, ouais, on les aime tous autant les uns que les autres.
Pour l'instant, c'est un diptyque. Est-ce qu'on peut envisager d'autres diptyques, une extension du monde autour de Gemini Spanico ?
Alors en fait, nous, l'histoire, elle a été écrite en 3 tomes. Donc effectivement, à l'issue du tome 2, l'histoire ne se termine pas, il manque un tome. Donc après, on est déjà en train de plancher dessus, on va voir comment ça se passe. Mais concrètement, l'histoire est vraiment en 3 tomes.
Et donc, il n'y a pas de détails sur les personnages, parce que même s'il y a un troisième tome qui arrive, on n'aura forcément pas toutes les informations sur chaque personnage, vu le nombre de pages, à moins que vous ayez des révélations qui arrivent.
Je pense qu'effectivement, le tome 3, enfin celui qui est censé clôturer cette histoire, apportera quand même beaucoup de réponses et de révélations, et c'était vraiment voulu qu'on laisse un peu en suspens tout ça pour avoir vraiment un dernier tome où tout est révélé, quoi.
Quelle devrait être la bande-son de Gemini Spanico ?
Ah, bonne question. Bonne question.
On a déjà fait un clip présentant le tome 2. Et là, je me suis permis de mettre la musique du groupe dans lequel je suis. Donc on va dire que c'est du rock. Après, la bande-son, ça peut être plein de choses. Ça va vraiment dépendre des ambiances qu'il y a. Mais ça pourrait aussi bien être du classique, quoi. Mais effectivement, sur le clip qu'on a fait, on a mis du rock.
Pourquoi vous aviez quoi en tête ?
Quelque chose de très épique, très péchu, hein, qui bouge beaucoup, ouais. qui arrache un peu les oreilles. Là.
Ouais, c'est clair.
Parce que le dessin, il arrache un peu les yeux aussi. Enfin, c'est pas dans le sens négatif, hein, mais il est vraiment très épique aussi. Donc, même s'il est très noir, puisque l'histoire est aussi assez glauque par moments même, hein, dénonciatrice aussi. On a besoin d'une musique qui bouge beaucoup, qui soutient beaucoup le dessin et puis aussi les événements qui sont quand même dramatiques. Et donc,
C'est vrai que quand vous dites épique, ça correspond tout à fait à ce qu'on a en tête, quoi. C'est un peu ça, quelque chose d'assez orchestral, puissant. Mais bon, après il peut y avoir des scènes où ça peut être une musique très mélancolique.
Vous formez un duo créatif assez soudé, assez prolifique. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos autres travaux, y compris pour le cinéma ?
Comment vous fonctionnez en fait ? Quel que soit le projet, vous travaillez de la même façon ? Ou est-ce que justement, que si c'est une BD ou du cinéma, c'est pas forcément le même qu'à les idées en premier ? Ou les retouches sont pas les mêmes ?
Disons que dans le cadre de la BD, là, ce qu'on fait, c'est... Alors le terme qui revient assez souvent, c'est ping-pong en fait, parce que ça semble... Ça résume assez bien en fait la manière dont on travaille. personne ne s'accapare telle partie du travail. C'est un échange constant. Pour ce qui est du travail de production, que ce soit dans le cinéma ou pour de l'animation, pour des séries TV, on continue de fonctionner en binôme, à la différence près que le travail s'inscrive vraiment dans un travail d'équipe, donc il y a beaucoup plus de personnes qui sont amenées à intervenir, et donc de fait, ce qu'on est amené à créer tourne beaucoup, quoi.
La grosse différence entre le travail qu'on fait sur notre BD et la production cinéma ou télé, c'est que sur notre BD, on a une quasi-liberté totale, vu qu'on écrit l'histoire, en fait. Alors que quand on fait du design pour un film ou une série, l'histoire est écrite et on doit trouver des idées graphiques qui illustre cette histoire. Donc à mon sens, je pense que c'est la grosse différence dans le travail de création.
Quand vous écrivez Gemini Hispanico, c'est plutôt les idées du scénariste d'abord, ensuite le dessinateur qui s'y colle, ou vous écrivez ensemble? Est-ce que le dessinateur connaît tout l'histoire ou pas?
En fait, c'est un peu spécial dans le sens où on est scénariste, dessinateur et coloriste tous les deux. Donc en gros, on a un regard sur chaque étape de la BD. Donc non, c'est vraiment une création à deux. Et aussi bien sur l'aspect graphique que scénaristique.
Du coup, comment est-ce que vous vous répartissez le travail? Vous êtes vraiment en capacité de tout faire? Ou il y en a un qui est plutôt personnage, l'autre décor? Vraiment?
Vraiment, ouais.
Et du coup, un qui commence, l'autre qui termine
Il peut arriver... C'est un exemple parmi d'autres, mais lorsqu'on a une séquence particulière en tête, on va d'abord dégrossir un découpage pour trouver un rythme, des cadrages et ainsi de suite. Et puis, en fonction du temps, de l'humeur, de l'envie de l'un, de l'autre, l'un peut commencer à mettre au propre, à poser des lumières, l'autre peut travailler tel ou tel autre aspect, etc. Sachant que, quel que soit le cas de figure, à un moment ou à un autre, la planche va atterrir dans les mains de Steph ou de Steph dans mes mains et ainsi de suite. Ça tourne constamment.
Il n'y a pas vraiment, on va dire, de méthode dans le sens où il y en a pas un qui fait les personnages et l'autre les décors. C'est plus une fois qu'on a vraiment établi le prédécoupage avec tous les cadrages et la narration, comme l'a dit Bob. À ce moment-là, une fois que tout est crayonné rapidement, en fonction de l'inspiration, on se dit tiens, moi je vais faire cette double page, toi tu vas faire celle-là. Et voilà, c'est un échange constant en fait. Mais il n'y a pas de spécialité, on va dire.
Est-ce que vous avez une date pour la sortie du tome 3 approximative?
Alors non, malheureusement, on n'a pas de date. Nous, on a l'histoire qui est écrite, parce que l'histoire a vraiment été écrite dès le départ, quoi, avant même que les deux premiers tomes sortent. Maintenant, on a commencé à crayonner un petit peu, mais c'est un peu en suspens, parce que peut-être qu'entre les deux, on va travailler sur un nouveau projet. Donc on est encore en train de voir un peu comment on s'organise. Mais dans tous les cas, si on a le feu vert sur la suite de Gemini, on va vraiment tout faire pour aller très vite et puis éviter que les lecteurs qui l'ont lu et qui ont apprécié n'attendent pas trop, quoi. Mais je peux rien garantir parce qu'il se peut qu'on fasse passer l'autre projet avant.
Alors je voulais vous demander quels étaient vos projets, mais vous avez peut-être pas le droit d'en parler pour l'instant.
On peut juste dire que c'est plus adulte. Voilà. Mais ça restera fantastique.
Un mot sur l'ambiance du salon du livre et comment la BD est perçue par les lecteurs.
Super, ouais, ça se passe super bien. Finalement, on a l'impression que c'est un peu comme Angoulême, quoi, parce qu'on est sur notre stand. Après, effectivement, quand on tourne un peu dans le salon, on voit plein d'autres choses et c'est super intéressant.
C'est peut-être un peu cliché ce que je vais dire, mais on le ressent vraiment comme ça. En fait, comme on est jeune, en tout cas dans le métier, c'est à la fois étonnant et c'est un vrai plaisir de rencontrer les gens qui, en fait, on a juste l'impression d'être avec des potes. Donc c'est assez plaisant et puis on a... Alors c'est rigolo parce que des fois, sans faire de généralité, des fois on voit des dessinateurs qui sont peut-être, ils ont plus de métiers, sont peut-être un petit peu lassés ou fatigués des fois et puis ils travaillent un peu à la chaîne et en fait nous on se marre, quoi, c'est vraiment super.
Si vous pouviez posséder un des 5 véhicules que je vais vous présenter, lequel prendriez-vous et pourquoi? Flash McQueen, donc la voiture de Cars, Kit, donc dans K2000, le van de Scooby-Doo, la Batmobile ou la DeLorean?
Perso, ça serait la DeLorean. Alors pourquoi forcément par rapport au film, quoi, Retour vers le futur, mais aussi parce que c'est une voiture qui est souvent citée dans plein d'albums de rock des années 70, et voilà, quoi, c'est un peu une voiture mythique, donc je choisirais celle-là. Mais je suis pas contre le van de Scooby-Doo.
Alors moi, toutes ces références me plaisent bien, vraiment. Maintenant, je répondrai comme Steph. Moi, c'est définitivement la DeLorean. Pas parce que je suis un fan de bagnole, c'est pas trop ma came en fait. Mais pour la fonction. Oui. Voilà, définitivement pour la fonction. Je pense que beaucoup de personnes souhaiteraient, si elles le pouvaient, se balader un petit peu dans le temps, passé, futur et ainsi de suite.
Mais, tu peux en faire des trucs dans le van de Scooby-Doo aussi. Ça a plein de fonctions.
Oui, mais ça, tu parles d'autre chose.
On peut faire des sandwichs.
Ah, ça c'est un argument, les sandwichs, ouais. Non mais la DeLorean, ouais, carrément.
Merci. Voilà, merci à vous et merci à tous les auditeurs de l'autre monde.